Chapitre 41. Aïcha sortit son téléphone de sa poche, puis l'y remit avec un soupir déçu.
« Je sais pourquoi Chijok ne téléphone pas qu'il vient, »
dit-elle. Ifemelu ne dit rien. Aïcha et elle étaient seules dans le salon. Halima venait de partir. Ifemelu était fatiguée, elle avait mal au dos et le salon de coiffure commençait à lui donner la nausée, avec son atmosphère renfermée et son plafond pourri. Pourquoi ces Africaines étaient-elles incapables d'avoir un salon propre et bien aéré? Sa coiffure était presque terminée. Seule une petite section, semblable à une queue de lapin, restait à terminer sur le devant de sa tête. Elle avait hâte de s'en aller.
« Comment tu as eu tes papiers ?» demanda Aïcha.
« Pardon ?»«
Comment tu as eu tes papiers ?»
Ifemelu resta muette de surprise. C'était un sacrilège, cette question. Les immigrants ne demandaient jamais à d'autres immigrants comment ils avaient obtenu leurs papiers, ne s'immisçaient pas dans ces recoins de la vie privée. Il suffisait de s'extasier devant le fait que les papiers avaient été obtenus. Un statut légal acquis.
« Moi, j'essaye de trouver un Américain quand j'arrive, pour me marier. Mais il apporte beaucoup de problèmes, pas de travail, et tous les jours, il dit « donne-moi de l'argent, de l'argent, de l'argent. »
dit Aïcha en secouant la tête.
« Comment tu as eu les tiens ?»
Soudain, l'irritation d'Ifemelu se dissipa, remplacée par un imperceptible sentiment de parenté, parce que Aïcha n'aurait pas posé cette question si elle n'avait pas été africaine. Et Ifemelu vit dans ce nouveau lien une raison supplémentaire de rentrer au pays.
« J'ai obtenu mes papiers par mon employeur, » dit-elle. « La société pour laquelle je travaillais s'est portée caution pour ma carte verte. »«
Oh !» fit Aïcha, comme si elle se rendait compte qu'Ifemelu appartenait à cette catégorie de gens pour lesquels les cartes vertes tombaient du ciel. Les gens comme elle, bien sûr, ne pouvaient pas les obtenir d'un employeur.
Chijioke a eu ses papiers à la loterie, dit Aïcha. Elle se mit à peigner lentement, presque amoureusement, la mèche de cheveux qu'elle s'apprêtait à tresser.
Qu'est-il arrivé à votre main? Demanda Ifemelu. Aïcha haussa les épaules.
Je sais pas, ça vient et après ça part.
Ma tante est médecin. Je vais faire une photo de votre bras et lui demander ce qu'elle en pense, dit Ifemelu.
Merci.
Aïcha termina la tresse en silence.
« Mon père meurt, j'y vais pas, » dit-elle.
« Pardon ?»«
L'année dernière. Mon père meurt et j'y vais pas, à cause des papiers. Mais peut-être si Chijioke se marie avec moi, quand ma mère meurt, je peux y aller. Elle est malade maintenant, mais je lui envoie de l'argent. »
Ifemelu resta un instant sans savoir quoi dire. L'intonation morne d'Aïcha, son visage inexpressif amplifiait le tragique de sa situation.
« Désolée, Aïcha, » dit-elle. « Je comprends pas pourquoi Chijioke vient pas, pour que tu lui parles. »«
Ne vous inquiétez pas, Aïcha, tout ira bien. » Puis, aussi subitement qu'elle avait parlé, Aïcha fondit en larmes. Ses yeux se voilèrent, sa bouche s'affaissa et un changement effrayant altéra son visage. Il s'effondra sous l'effet du désespoir. Ses mains continuaient machinalement à tresser les cheveux d'Ifemelu, tandis que ses traits, comme s'ils n'appartenaient pas à son corps, se décomposaient et elle laissait couler ses pleurs, la poitrine haletante.
« Où travaille Chijioke ? » demanda Ifemelu. « Je vais aller lui parler. »
Aïcha la regarda fixement, les larmes continuant à rouler le long de ses joues.
« J'irai parler à Chijioke demain, » répéta Ifemelu. « Dites-moi seulement où il travaille et à quelle heure il fait une pause. »
Qu'est-ce qu'il lui prenait? Elle aurait dû se lever et s'en aller, ne pas se laisser entraîner davantage dans le bourbier d'Aïcha, mais elle ne s'en sentit pas capable. Elle allait bientôt rentrer chez elle, au Nigeria. Elle pourrait voir ses parents et revenir en Amérique si elle le désirait. En face d'elle, il y avait Aïcha, qui espérait revoir un jour sa mère sans oser y croire. Elle parlerait à ce Chijioke. C'était le moins qu'elle puisse faire. Elle épousseta ses vêtements et donna à Aïcha un petit rouleau de dollars. Aïcha les étala sur sa paume, les comptant rapidement.
Combien irait à Mariama et combien à Aïcha ? Se demanda Ifemelu. Elle attendit qu'Aïcha eût fourré l'argent dans sa poche pour lui donner un pourboire. Aïcha prit le billet de $20, les yeux maintenant secs, le visage redevenu inexpressif. « Merci. » Un sentiment de gêne régnait dans la pièce et Ifemelu, comme pour la dissiper, examina une fois encore ses cheveux dans la glace, les tapotant doucement en tournant la tête d'un côté puis de l'autre. « J'irai voir Chijoke demain et je vous appellerai, » dit Ifemelu. Elle épousseta une dernière fois ses vêtements et regarda autour d'elle afin de s'assurer de n'avoir rien oublié. « Merci. » Aïcha s'avança vers Ifemelu, prête à l'embrasser, puis s'arrêta, hésitante. Ifemelu lui pressa doucement l'épaule avant de se diriger vers la porte. Dans le train, elle se demanda comment persuader un homme de se marier quand il semblait n'en avoir aucune envie. Elle avait mal à la tête. Bien qu'Aïcha ne les ait pas tressés trop serrés, ses cheveux tiraient désagréablement, lui laissant la nuque et les nerfs douloureux. Il lui tardait de se retrouver chez elle, de prendre une longue douche froide, de rassembler ses cheveux dans un bonnet de satin et de s'étendre sur son canapé avec son ordinateur. Le train venait de s'arrêter en gare de Princeton quand son téléphone sonna. Elle s'arrêta sur le quai pour fouiller dans son sac. Tout d'abord, parce que tante Uju était incohérente, parlant et sanglotant à la fois, Ifemelu crut qu'elle disait que Dike était mort. Mais tante Uju disait « Oh, mucha gokwa, Dike, en mucha gokwa !» Dike avait failli mourir. Il a pris une overdose de pilules, puis il est descendu au sous-sol et s'est étendu sur le divan, dit tante Uju, la voix brisée comme si elle n'y croyait pas elle-même. Je ne descends jamais au sous-sol quand je rentre. J'y fais seulement mon yoga le matin. C'est Dieu qui m'a dit de descendre pour sortir la viande du congélateur. C'est Dieu. Il était couché là, tout transpirant, le corps inondé de sueur, et j'ai été prise de panique. Je me suis dit, ces gens ont donné de la drogue à mon fils. Ifemelu tremblait. Un train passa dans un vrombissement et elle pressa un doigt dans son autre oreille pour mieux entendre tante Uju. Celle-ci disait, « Signe de toxicité du foie !» Et Ifemelu eut l'impression d'être suffoqué par ces mots. Toxicité du foie. Par la confusion qui s'emparait d'elle, par le soudain assombrissement de l'air. « Ifem ?» demanda tante Uju. « Tu es là ?»«
Oui. »
Le mot avait parcouru un long tunnel. « Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé exactement? Tante, qu'est-ce que tu dis ?»
Il a avalé un flacon entier de Tylenol. Il est dans le service des soins intensifs à présent et il s'en sortira. Dieu n'était pas prêt à le voir mourir, c'est tout. »
dit tante Uju. Elle se moucha bruyamment.
« Sais-tu qu'il a aussi pris un antivomitif pour que le médicament reste dans son estomac ? Dieu n'était pas prêt à le voir mourir. »
« Je viens demain, » dit Ifemelu. Elle s'attarda longuement sur le quai, se demandant ce qu'elle faisait pendant que Dike avalait un flacon de pilules.